En France, la justice sociale a été édifiée sur trois piliers. Les services publics, la sécurité sociale et le droit du travail. Inspiré des travaux du Conseil national de la Résistance, la République sociale a trouvé une base juridique solide dans le préambule de la Constitution. Telle a été la structure de l'État social jusqu'à la conversion de tous les partis de gouvernement au credo néolibéral. Alain Supiot est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son texte intitulé « La justice au travail ». Mais comme chaque soir, nous commençons en musique et ce soir, ce sera Tina Turner. Pourquoi vivons-nous un dépérissement de l'idée de solidarité, selon vous, Alain Supiot ? Et pouvons-nous rester passifs ?
Il y a au cœur des mythologies contemporaines, de celles qui s'installent à partir des Lumières, à quelques exceptions près. Une des exceptions, c'est Montesquieu, auquel je me suis beaucoup intéressé l'an dernier. L'idée qu'à l'origine des sociétés, il y aurait un contrat. Nous vivrions dans une société contractuelle qui est donc peuplée de particules contractantes et tout lien social aurait vocation progressivement à devenir un lien contractuel définie en fonction des calculs d'utilité individuelle de chaque individu. Dans une telle représentation de la société, on parle de éventuellement vivre ensemble, mais plus de solidarité, puisque chacun est censé n'être animé que par la poursuite de son propre intérêt.
Donc une montée des individualités qui va avec un dépérissement de l'état social.
Si c'était une montée des individualités, on pourrait sans doute s'en réjouir, mais l'individu s'épanouit, s'enrichit, se développe dans des milieux favorables, et les milieux solidaires sont favorables au développement des individus. Derrière cette promotion de l'individu souverain, il y a souvent en réalité un appauvrissement considérable des opportunités, des expériences de vie des uns et des autres.
Alors quand tout cela a-t-il commencé selon vous, vous qui êtes philosophe du droit et aussi juriste ?
Je l'ai dit tout à l'heure, cette logique de la réduction de la société à un réseau de contrats, à une histoire ancienne, mais il ne faudrait pas faire peser sur les hommes des Lumières des responsabilités qui ne sont pas les miennes, qui ne sont pas les leurs, pardon. Le tournant me semble être le 19e. Il y a eu un tournant qu'on peut dire scientiste. Avant les Lumières, on pensait que les hommes, les lois qu'ils se donnaient, devaient être en accord avec des lois transcendantes qui les dépassent, des lois révélées, inscrites dans des livres. Révélation, c'est on lève le voile et on découvre la vraie loi. Et donc les lois humaines devaient se conformer à ces lois divines. L'idée des Lumières, c'est que les êtres humains sont capables de se donner à eux-mêmes leurs propres lois par des processus délibératifs en fonction de l'état changeant, des circonstances, du progrès technique, etc. Et puis se fait jour, à partir de la fin du 18e, début du 19e, et là aussi je retrouve Montesquieu dans un échange avec Condorcet, où Condorcet est très sévère pour Montesquieu. Il dit à Montesquieu, mais pourquoi est-ce que Montesquieu s'intéresse aux lois des Chinois ? Si la raison est une, les lois doivent être les mêmes sur toute la surface de la Terre. Donc nous avons deux héritages de cette tradition des Lumières. Celle Montesquieu, attentif à la diversité des histoires, des coutumes, des territoires, des climats, des langues, et puis celle d'un rationalisme abstrait, bien représenté par Condorcet, qui est mathématicien, qui considère donc que si la raison est une, les lois doivent être les mêmes partout. Ça, c'est un programme scientiste, et dont on peut considérer qu'il est consacré aujourd'hui, il a écrasé l'autre, puisque on a créé à Paris un grand campus pour les sciences humaines et on l'a baptisé du nom de Condorcet et pas du nom de Montesquieu.
Mais avez-vous l'impression, Alain Supiot, qu'on vit une accélération du modèle de l'état social en ce moment ? Est-ce qu'on est contemporain de ce déficit d'un état qui prend de moins en moins soin de nous et qui nous protège de moins en moins ?
Non, on s'inscrit dans une histoire où, je le disais, le premier âge du capitalisme était porté par cette foi scientiste dans des lois immanentes qui seraient un ordre spontané du marché auquel les lois humaines devaient être accordées. Donc, si vous voulez, c'est la même structure que ce qu'on avait à l'époque religieuse, sauf que maintenant, on se réfère à des lois qui seraient inscrites dans la nature. D'ailleurs, les plus grands historiens de l'économie, dont la lecture est très recommandable, qui est Karl Polanyi, dit que justement l'irruption du libéralisme économique et du motif du gain comme moteur de l'action humaine a eu les effets de la plus violente des explosions religieuses de l'histoire. Donc c'est une sorte de conversion religieuse et elle se produit au XIXe siècle. Simplement, un tel univers imaginaire est proprement intenable. Insoutenable. Vous pouvez imaginer que vous allez faire travailler les gens 24 heures sur 24, mais alors à ce moment-là, ils meurent. Et donc, il a bien fallu trouver des dispositifs pour rendre soutenable cette fiction, par exemple, que le travail serait une marchandise. Ce qui est quand même de l'ordre d'une totale fiction, puisque le travail est inséparable de la personne de chacun de nous. Donc, mais on a imaginé, on va faire comme si Le travail était une marchandise négociable. Le comme-si marque l'existence d'une fiction. Mais les fictions juridiques ne sont pas des fictions romanesques. Elles sont là pour accorder une certaine représentation mentale avec le principe de réalité. Et pour réaliser cet accord, il fallait le droit social, qui prenne en charge le temps long de la vie humaine, au-delà du temps court des échanges marchands. Et c'est à cela que nous devons les services publics, la sécurité sociale, que vous évoquiez tout à l'heure, ou le droit du travail. Donc, il y avait eu, pour employer encore des termes usés par Polanyi, une sorte de réencastrement de l'économie dans une conception humaine des rapports sociaux. Et le néolibéralisme se marque par un nouveau désencastrement qui s'est produit, c'est le tournant Thatcher-Reagan début des années 80.
Et cette course folle ne cesse de produire des effets pervers sur notre vivre ensemble, mais aussi sur notre protection en tant que personne.
Oui, si vous voulez, le droit c'est l'art des limites, et l'être humain et son existence même est limitée, et il le sait. La liberté suppose la possibilité d'être maître de ses propres limites, d'en être conscient d'abord, de les intégrer. Si vous êtes dans l'imaginaire selon lequel il n'existe aucune limite, eh bien la limite va se donner à voir sous la forme d'une limite catastrophique. Je disais tout à l'heure, prenez l'exemple de la paupérisation de masse, des masses ouvrières, au XIXe siècle, avec une mortalité infantile et invraisemblable. Aujourd'hui, nous voyons cela très clairement dans les rapports à la nature. Là aussi, nous sommes dans les fictions fondatrices de la pensée moderne, qui considère que la nature est une chose à notre disposition.
À piller, donc, ad libitum.
Il n'y a pas de limite. Donc, si vous ignorez les limites, même la construction, la propriété immobilière, c'est une notion très particulière. Je viens de réussir à faire publier en France un texte d'un grand intellectuel japonais qui s'appelle Osamu Nishitani, qui s'appelle « L'impérialisme de la liberté, un autre regard sur l'Amérique ». Et il décrit cette irruption sur le territoire américain de cet imaginaire de la Terre comme objet de petite propriété privée sur lequel va s'ancrer la liberté, face à des Indiens qui ont un rapport totalement différent à la Terre, parce que eux, c'est des vrais nomades, c'est pas des nomades à la Deleuze. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont très attachés à leur territoire, mais l'idée de le découper en parcelles où chacun, dont chacun serait propriétaire, leur paraît folle. Et de fait, si vous dites à la Terre, vous avez acheté une parcelle de terre, essayez de le faire, enfin je ne vous recommande pas, elle aura de l'air de faire une chose pareille, mais de lui dire « tu es à moi », eh bien, vous attendez 100 ans, et c'est la Terre qui pourrait dire « non, c'est toi qui étais à moi ». Et vous voyez, il y avait ces savoirs, et nous ne sommes pas conscients de toutes ces fictions sur lesquelles repose l'économie contemporaine.
Alors j'ai lu justement ce week-end, Alain Supiot, un article absolument terrifiant, fascinant et terrifiant, qui disait qu'une nouvelle commission mondiale sur la gouvernance des risques avait été créée pour essayer de pallier justement à cette dégradation bioclimatique et que étaient en train de se réunir des savants du monde entier pour essayer de prévoir par géo-ingénierie des méthodes qui permettraient dans l'atmosphère de créer des stations pour refroidir le soleil. Donc ça voudrait dire que les limites de l'homme sont là aussi incontrôlées, incontrôlables, et qu'au lieu, nous les hommes, de prendre en charge ce que nous avons fait à la nature, nous allons continuer à violer la nature en inventant des nouveaux moyens pour faire face au soleil et pour ne plus voir le bleu du ciel.
Oui, ça fait partie des prophéties des temps modernes, d'une prise de possession totale de la nature. Le grand anthropologue Leroy Gourhan disait que cette projection ne trouverait son aboutissement que le jour où le dernier homme mangerait le dernier rat cuit avec la dernière goutte de pétrole. Bon, c'était pas très optimiste comme prévision. Mais vous avez, aux États-Unis notamment, mais on peut, si on paye très cher, se faire congeler avec l'idée qu'un jour nous allons ressusciter. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on avait congelé Lénine. On pensait qu'un jour le grand Lénine pourrait revenir parmi nous. Et donc, et il y a des gens qui payent très cher pour ça. Donc, le problème du point de vue juridique qui est le mien, c'est de distinguer dans ce qu'on peut appeler l'imaginaire, le registre justement du romanesque, où tout est possible. On peut faire de la science-fiction, on peut dire qu'on sera le père de son père, qu'on va rajeunir et tout ce que vous voulez, avec le principe de réalité. Et donc il y a dans cette imagination humaine une force de traction réelle. Léonard de Vinci imaginait qu'on allait pouvoir voler. Il fait un appareil, et là, vous rencontrez le réel, soit en flottant dans les airs, soit en vous écrasant au sol. Donc, le principe de réalité ne peut pas être écarté, et donc, il faudrait garder beaucoup de discernement dans les prophéties actuelles qui prétendent qu'il y aura des solutions techniques à tous les problèmes.
En tout cas, lui, il n'a pas été congelé, et c'est bien dommage, parce qu'il a encore aujourd'hui des choses à nous dire. Il s'appelait Jean-Paul Sartre. Nous allons l'écouter à propos du travail et des droits abstraits. C'est une archive INA du 10 novembre 1947.
Par exemple, aujourd'hui, les événements qui traversent une vie, que ce soit le chômage, que ce soit les guerres, que ce soit la lutte civile, ce sont des événements dont vous n'êtes ni l'origine ni la fin. Ce sont des grands cataclysmes qui prennent naissance quelque part loin de vous, par exemple à Danzig, qui viennent, qui vous bouleversent, qui déferlent sur vous et qui vont mourir très loin, par exemple aux Philippines, sans que vous ayez même pu les marquer. Alors vous voyez, ceci prouve, n'est-ce pas, que en fait, ce désir de l'homme qui est d'être un homme, c'est-à-dire d'avoir sa vie entre ses propres mains, d'être responsable de sa propre vie, de se faire en même temps qu'il fait quelque chose, c'est-à-dire en travaillant, par exemple, c'est précisément ce qu'il n'a pas aujourd'hui. Il ne s'agit pas du tout d'une liberté métaphysique, il s'agit au fond d'être, d'avoir l'initiative et la responsabilité dans son travail, dans son opération, si vous voulez. Regardez le travail. Le travail d'aujourd'hui, il est toujours partiel. La plupart du temps, l'ouvrier travaille une petite partie de la machine ou de la marchandise qui sera livrée au consommateur. Il n'a pas l'impression d'être vraiment le créateur responsable du produit de son travail. En outre, le sort de l'entreprise dont il fait partie lui échappe complètement. Il se joue soit au niveau des décisions patronales où l'ouvrier n'a aucune part, soit sur le plan purement gouvernemental, dont il est également exclu. Ainsi, il est totalement privé de cette responsabilité du travail, qui, comme vous le savez, est la vraie liberté. Alors, il est donc, à la fois sur le plan de la politique générale, bouleversé par des événements auxquels il n'a pas part, qu'il subit, et sur le plan du travail, il est ce qu'on appelle aliéné, c'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait, et il ne peut pas le gérer. Alors, vous voyez que dans ces conditions, si nous voulons vraiment donner à cet homme des libertés abstraites, il faut étayer ces libertés sur des pouvoirs concrets qui permettront justement aux travailleurs de prendre plus de responsabilités, plus d'initiatives dans son travail. C'est-à-dire, par exemple, lui donner la liberté d'expression. Ça n'est rien du tout. Il l'a d'ailleurs, et à quoi est-ce qu'elle lui sert? Elle n'a aucun sens, sauf pour une toute petite minorité de gens. Mais si le travailleur avait le droit concret d'intervenir sur la production, sur la distribution, à partir de sa situation dans l'entreprise, si sans perdre son droit de vote en tant que citoyen de l'État, il gagnait le pouvoir de contrôler la gestion de l'usine ou de l'industrie dont il fait partie. À ce moment-là, le droit d'expression a un sens concret, parce qu'il a quelque chose à dire. Il a donc le droit de l'exprimer. En même temps, ça n'est plus la simple possibilité d'exprimer une opinion sans responsabilité. Dans son droit d'expression, il engage sa vie même, puisque, en fait, selon qu'il a donné une opinion valable ou non, selon qu'il a entraîné la gestion de l'entreprise à prendre telle ou telle direction, son sort personnel sera engagé. Ainsi, vous le voyez, il ferait sa propre vie en faisant son travail, en décidant de son travail dans la communauté des travailleurs. Il y a action indirecte de lui sur lui-même.
Nous venons d'entendre les propos de Jean-Paul Sartre. Ils sont datés de novembre 1947. Vous faites référence dans votre dernier ouvrage, Alain Supiot, justement, à ce Conseil national de la résistance qui a irrigué pas mal d'idées à la suite de la libération avec le gouvernement du général de Gaulle. Peut-être faut-il contextualiser ces propos de Jean-Paul Sartre, mais en tout cas, ils sont très passionnants parce qu'ils nous disent à quel point Il n'y a pas de travail sans droit au travail, il n'y a pas de travail sans droit au travail, mais liberté de savoir ce qu'on fait et liberté dans la société de pouvoir exprimer son rapport au monde. Aujourd'hui, on en est loin. Est-ce que cette idée de possibilité d'expression du travailleur dans la sphère même de ses activités est encore imaginable? Peut-être que quand on travaille, maintenant, on n'a plus le droit d'exprimer ce qu'on pense.
Alors,
en tout cas, on y va.
Je ne connaissais pas cette archive. Vraiment, merci de l'avoir fait entendre, parce que c'est une très grande actualité. Et cela résonne en effet avec ce moment de l'après-guerre, où on avait pensé le monde d'après, et dans des conditions beaucoup plus dramatiques que ce que nous avons vécu pendant le Covid, parce que sous l'occupation allemande, c'est pour moi un signe d'espérance à donner à tous ceux qui seraient tentés de baisser les bras, c'est que les générations antérieures, il y a des hommes et des femmes qui ont trouvé la force de réfléchir à un monde d'après et essayer de le construire ensuite. Et dans le programme du Conseil national de résistance, qui s'est logé ensuite dans le préambule de la Constitution de 1946, repris par le préambule de la Constitution de 1958, il y a eu un accord stratégique et pas du tout de calcul d'intérêt entre, disons, la gauche résistante et De Gaulle sur cette idée qu'il fallait instaurer ce que je proposerais d'appeler une démocratie économique. Et dans le préambule de la Constitution, ça se donne sous le nom de droit à la participation. Et De Gaulle a eu des mots très durs pour ceux qui, se croyant habiles, je crois qu'il avait cette formule, essaient de rabattre le droit à la participation sur une pure participation financière, alors que dans son esprit, il s'agissait d'associer les producteurs à l'acte de production. Et c'est d'ailleurs là-dessus que De Gaulle quitte le pouvoir, c'est-à-dire sur sa proposition, sur le référendum de 69, où il reprend cette question et il va fédérer contre lui toutes les forces de droite et de gauche à l'époque. Donc, le projet était de rendre une certaine prise aux êtres humains sur ce qu'ils font. Alors, ça redevient, à mon sens, de grande actualité dans le contexte écologique qu'on évoquait tout à l'heure. Parce que si la Terre chauffe, si la biodiversité disparaît ou se réduit, c'est en raison des modes d'organisation du travail à l'échelle de la planète. C'est-à-dire la question de l'organisation du travail, toutes ces chaînes de production, etc. et la question de l'empreinte écologique sont les deux faces d'une même médaille. Or, dans la fiction du travail marchandise que nous évoquions tout à l'heure, si je travaille, c'est avec quel but ? Eh bien, un revenu. À quoi sert mon travail ? C'est pas mon problème, et je dirais que je n'ai pas mon mot à dire sur ce à quoi sert mon travail. C'est l'affaire de l'entreprise, du dirigeant, des actionnaires.
Donc, délégation des responsabilités et absence de liberté par rapport à son existence.
Oui, c'est-à-dire, c'est comme le disait très bien Sartre, vous êtes réduit à un facteur de production, c'est comme ça que les économistes analysent souvent le travail. Ils n'y voient ni la dimension écologique, ni la dimension aussi anthropologique que j'évoquais et qu'évoque Sartre en disant c'est dans l'acte de travail qu'on se découvre soi-même et qu'on se forme soi-même, et c'est la raison pour laquelle priver des pans entiers de la jeunesse, de l'expérience du travail est proprement criminel. Enfin, on se condamne à voir ensuite des gens totalement désocialisés.
Donc, ce moment même, Alain Supiot, on assiste impuissant à la transformation de la définition
non,
même du
travail.
Non, ce
que je dirais, c'est que la situation s'est aggravée, parce que dans le modèle industriel dit fordiste, génialement mis en image par non seulement Chaplin, mais aussi dans Métropolis, par exemple, chez Lang. Vous avez la masse de gens transformés en semi-robots. Aujourd'hui, on dirait que c'est des ordinateurs bipèdes. C'est un peu l'imaginaire a changé, mais ils sont censés exécuter un programme. Et puis, il y a quand même, sur la dunette, je dirais, un certain nombre de gens qui réfléchissent. Donc, dans le schéma du contrat de travail classique, le dirigeant d'entreprise, lui, pouvait avoir en tête un objet qui ait du sens. Un éditeur veut faire des bons livres, un architecte des beaux bâtiments, etc. Le problème qui est survenu avec le tournant néolibéral, c'est la financiarisation d'économie, c'est-à-dire les dirigeants d'entreprise eux-mêmes ont été assujettis à des objectifs financiers. Le bas de bilan est l'équivalent du bas de la feuille de paye pour le salarié. Et pourquoi je travaille ? Ça, non. Je suis là pour dégager du profit. Alors, la limite catastrophique, c'est celle qu'on a rencontrée dans les EHPAD, puisque vous êtes là pour faire du profit. Eh bien, j'ai vu qu'on a décidé que même la soupe à l'oignon ne donnerait pas de croûtons aux vieux, parce que ça permettait de... Ou bien, dans le cas de Big Pharma...
D'augmenter les profits.
De Big Pharma, maintenant c'est très documenté, il y a eu des augmentations faramineuses d'un certain nombre de produits pharmaceutiques qui condamnent à la maladie ou la mort des pans entiers de la population. Et les responsables interrogés devant le Congrès américain disent « Mais mon job, c'est de dégager le plus grand profit possible. » C'est-à-dire que nous sommes passés à des logiques que je dirais de pure gouvernance par les nombres, où ce ne sont plus seulement les dirigés, les salariés, qui sont ainsi décérébrés, privés de prise sur le monde, mais ce sont aussi les dirigeants. Et je dirais même que les dirigeants sont exposés, vous savez que concernant les salariés, l'un des produits là, de ces nouveaux modes de management, c'est une montée vertigineuse, enfin très très importante, hein. C'était je crois un facteur 10 en 7 ans, enfin je dis ça de mémoire, des affections psychiques au travail. Mais ça n'épargne pas les dirigeants. Les problèmes de santé mentale, à mon avis, se posent aussi dans des classes dirigeantes qui n'ont plus avec le réel qu'un contact abstrait par des tableaux chiffrés. Là aussi, l'imaginaire peut nous aider à le percevoir. Je recommande d'aller voir un blockbuster de 2010, c'est un ami libanais m'avait recommandé d'aller voir ça, en me disant que la chef de la police ressemblait à Christine Lagarde. Ce qui n'est pas exactement le cas, mais voyez-le, ça s'appelle Elysium. C'est l'imaginaire américain des années 2010. Les riches ont fait sécession. Ils vivent sur une somptueuse planète.
Mais d'ailleurs, il s'apprête à aller vivre dans des exoplanètes.
Il y a une exoplanète, oui, depuis. Elon Musk s'est chargé de... Et puis, donc, c'est des lieux formidables où il y a des traitements, il y a des espèces de grille-pain où moi, on me mettrait dedans, je ressortirais comme un jeune homme. Enfin, vous voyez. Et puis, la Terre est devenue un vaste bidonville, très violent. Et donc, on voyait déjà à cette époque cet imaginaire d'un monde dont les élites auraient fait sécession. Et dans ce cas, ces dirigeants ne pensent pas avoir quoi que ce soit à apprendre de l'expérience des gens qui sont au travail. C'est-à-dire ce qui était la tradition d'un débat démocratique, parce que qu'est-ce que c'est la démocratie ? Ça consiste à dire que dans l'infinie diversité des positions occupées par les travailleurs, ils en savent plus que n'importe quel expert. Celui qui pédale en ce moment même pour livrer des pizzas en sait plus sur la condition des travailleurs sous plateforme que moi-même, même si j'ai beaucoup étudié le sujet. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si vous dites ça, ça n'a pas de sens. Nous savons, parce que nous avons nos tableaux économiques qui nous disent que. Et donc, la politique se transforme en un art soit de la réclame, soit de la pédagogie, et les deux étant mélangés. C'est pourtant, je crois que nous vivons un grand moment léniniste, puisque Lénine pensait qu'il y a une avant-garde et elle doit apprendre à
donc
cette...
Donc l'avant-garde, c'est les riches.
C'est les classes dirigeantes qui pensent avoir, qui vivent dans un monde, une représentation chiffrée du monde, qui est de plus en plus déconnectée du réel. On en a eu un exemple terrible et qui est encore de grande actualité. Notre système de santé en France est au bord de la rupture, on le sait, d'une véritable catastrophe. On a à aucun moment, encore à ce jour, remis en cause les décisions d'organisation qui ont conduit à cette catastrophe. Et c'est si on avait, au lieu de faire appel à des cabinets conseils, pris l'avis, là il faudrait lire Jean-Paul Sartre, des infirmières, des aides-soignantes, des médecins qui...
Des travailleurs, eux. Donc.
Mais je pense que s'il y avait une réforme, qu'il y a évidemment une réforme complète de notre système de santé envisagée en France, et elle doit commencer par s'appuyer sur l'expérience des soins des différents, de ce qu'on appelle les acteurs de la santé. C'est donc pas un surplus de bon cœur qui doit nous conduire à cela, c'est un réflexe vital.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical d'Alain Supio, Atahualpa Yupanqui.
sendero colla sembrao de piedra, caminito del indio que junta el valle con las estrellas, caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. Noche serrana llora la quena su honda nostalgia, y el caminito sabe cuál es la chola que el indio llama, y el caminito sabe cuál es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia, y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro y llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio.
Sí, calamiteux. Imaginons qu'il y ait un AVC du côté de Sainte-Engrâce, une crise cardiaque du côté d'Urdos et un malade plus conventionnel à Oloron. Sur les trois, le système qui est mis en place dans le cadre d'un dispositif dégradé avec un hélico, etc., permettra de sauver une personne, les deux autres seront condamnés. Voilà, l'Agence régionale de santé, les équipes de direction, j'imagine, font tout ce qu'elles peuvent pour éviter que la pénurie ne soit trop flagrante, mais pénurie, il y a. On se battra contre ça. Hein. On demandera audience au ministre de la Santé le jour où il sera nommé. On ne sera pas les seuls. Hein. Il faudra que les gens s'expriment là-dessus, parce que ça ne peut pas durer. On ne peut pas à la fois faire le panégyrique des territoires quand on est en campagne électorale, et puis les laisser se désertifier en matière de services publics, même si j'ai conscience qu'un service public apporté à un territoire qui est un peu plus lointain coûte un peu plus cher à la collectivité.
Nous venons d'entendre un court reportage et nous venons d'entendre la voix de Bernard Outouri. C'était un reportage sur l'état d'urgence de l'hôpital d'Oléron le 7 mai dernier. Un papier de Louise Joyeux. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Alain Supiot. Le problème de l'hôpital est un problème extrêmement grave, vital pour notre santé. Mais n'est-ce pas aussi le fruit d'un démantèlement de l'État et d'un dépérissement de la possibilité de nous protéger, un démantèlement de l'État qui vise aussi des tas de secteurs qui ne sont plus protégés par ce même État.
Il est exact que nous vivons une période assez étrange où on voit l'État se déconstruire lui-même.
L'État attaquant l'État.
Oui. C'est
une auto-attaque de l'État, dites-vous dans votre ouvrage.
Oui, c'est-à-dire cette foi un peu naïve. Parce qu'encore une fois, quand je parle des classes dirigeantes, c'est sans aucune espèce d'animosité. Je le dis, à mon sens, l'un de leurs drames actuellement, c'est qu'ils sont décérébrés par une certaine représentation du monde. Mais cette idée que tout lien de devenir contractuel conduit à la liquidation de toute espèce de statut, de position stable. Tout doit devenir fluide, contractuel. Or, effectivement, l'État social, que ce soit les services publics ou la sécurité sociale ou le droit du travail, avait eu à cœur, pour préserver le fonctionnement des marchés, de les encadrer dans des dispositifs stables qui assuraient la continuité à la fois individuelle et collective. Donc si vous vous attaquez au statut, à tous les statuts de façon systématique, on a quand même liquidé là, les statuts des préfets, des diplomates, des universitaires, c'est en cours, pour tout remplacer par une logique de marché, en réalité, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Donc il y a quelque chose de tout particulièrement tragique du point de vue intellectuel dans cette procédure. Mais on pouvait penser, dans le cas de la santé, parce que le cas de la santé est particulièrement préoccupant aujourd'hui, mais vous savez que la situation de la justice n'est pas bonne, que on ne trouve plus de candidats pour les fonctions d'enseignement qui ont été méprisées, mal payées, etc. Et donc ce sont ces grands piliers de la République qui sont mis en péril. Or, ce qui est frappant, c'est que nous sortons d'une période de campagne électorale. Nous sommes encore dans une période où on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des grandes discussions sur ces sujets-là, que ce soit au cœur des débats, qu'on ne parle que de ça, en échangeant des positions contraires. C'est le propre de la démocratie. Non. 24 heures sur 24, vous pouvez écouter les... Alors, on parle un peu de l'hôpital quand il y a...
Enfin, ça dépend des programmes politiques.
Oui.
Dans une semaine vont commencer les législatives et il va y avoir des propositions de la part de différents...
On peut espérer que ces grands sujets soient traités de façon sérieuse, alors que manifestement, ils ne l'ont pas été dans la campagne que nous venons de vivre, ce qui est préoccupant.
Alors justement, une des questions qui se posent, et elles sont nombreuses à la lecture de votre ouvrage, Alain Supiot, c'est de savoir s'il est trop tard. C'est de savoir si nos gouvernants, finalement, n'héritent pas d'une situation où eux-mêmes ont été, j'emploie votre propre terme, dévertébrés par la financiarisation, la mondialisation de l'économie et par l'empire, justement, des nombres qui ôte de plus en plus de possibilités personnelles à chaque individu de pouvoir penser son avenir, mais aussi l'avenir de notre société. Est-il trop tard ou pouvons-nous encore agir ?
Alors, il n'est certainement jamais trop tard, l'histoire humaine le montre. Vous avez parlé de mondialisation. Alors là, c'est un point sur lequel je mène...
Mais vous en parlez beaucoup.
Oui, mais je mène un combat tout à fait désespéré et vain, mais ce sont les plus beaux, comme vous le savez, pour essayer de profiter de cette possibilité que nous offre la langue française de ne pas confondre globalisation et mondialisation. Aujourd'hui, nous sommes pris en tenaille entre, d'un côté, je dirais, les globalistes... Je ne veux pas faire injure au vieux Condorcet, mais enfin, c'est cette idée que tout est partout pareil et que les mêmes lois doivent s'appliquer partout. Donc c'est le rouleau compresseur de la globalisation selon lesquels toute la diversité des cultures, tout ça doit disparaître et nous allons bientôt communier dans une seule langue sur les vertus du marché et des droits de l'homme individuels. Et en face de ça, la mondialisation, c'est autre chose. Enfin, ça serait un chemin, puisque nous sommes coincés entre les globalistes, pour terminer, et puis d'autre part, ce qu'on peut appeler les identitaristes, qui sont le sous-produit de cet écrasement des diversités, c'est-à-dire qu'on avait l'illusion qu'on allait pouvoir liquider les solidarités. Notre conversation a commencé par cela, c'était Hayek, un des papes du néolibéralisme, a écrit que c'était un sentiment atavique qui devait disparaître, la solidarité. Seulement, ça ne disparaît pas. Mais si vous casser tous les systèmes démocratiques de solidarité, ce qu'on a évoqué de l'État social, les solidarités réapparaissent, mais sur des bases identitaires. Vous allez être solidaire des gens qui ont la même couleur de peau, la même orientation sexuelle, la même nationalité ou appartenance régionale. Tout est bon pour...
Ce qu'on appelle le communautarisme, forme de communautarisme.
C'est ça. On revient vers une
espèce...
Un monde
des tribus.
Une fragmentation tribale de la société. Alors, entre les deux, il y a quand même une voie, et à mes yeux, c'est la voie qu'on pourrait dire de mondialisation, si on veut bien prendre ce mot dans son origine, dans son sens profond, étymologique. Mondialisation, ça vient de mundus, qui est le contraire de immundus. Le monde, c'est le contraire de l'immonde. C'est l'équivalent en grec de l'opposition du cosmos, qui est un lieu habité et embelli par le travail de l'homme. Et c'est de là que vient cosmétique, il y a l'idée de... Et le chaos, qui là est le lieu invivable. Eh bien, mundus immundus, c'est la même logique. Et si je puis me permettre une minute de droit romain, je vous jure, Laura Adler, ça va être très bref. Dans les rites de fondation d'une cité romaine, on traçait la limite de la cité, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des limites quand même. Et puis au centre, on faisait un temple qui s'appelait le mundus, où chaque groupe ethnie qui venait s'associer pour fonder la cité versait une poignée de terre. De sa terre d'origine. Donc, vous voyez, mundus...
Donc, participation de chacun une vie commune. Engagement de chacun.
La mondialisation, et là encore, je retrouve l'esprit de Montesquieu et de ses lettres personnes, c'est de dire, le monde est divers, les coutumes sont diverses, les façons de vivre, les langues, et c'est ce qui fait sa richesse. Si vous prenez l'Europe, ce qui fait l'aspect fascinant de l'Europe, si on était vraiment pro-européen, on cultiverait la diversité des langues en Europe. C'est une richesse, au lieu de vouloir tout aplatir, vous voyez. Donc, la mondialisation, à
mes
yeux...
On aplatit tout pour parler de la langue des algorithmes.
Oui, enfin, une langue sacrée, je dirais. Mais la mondialisation, c'est l'horizon d'un monde qui est riche de la diversité de ses langues, de ses connaissances, de ses savoir-faire, et qui entend... faire coopérer des sociétés qui sont destinées à demeurer diverses. Et ce n'est pas l'idée, si vous voulez, d'une uniformisation du monde. Stefan Zweig parlait de Monotosierung der Welt, l'uniformisation du monde. Déjà, il voyait venir ça, Zweig, dans les années 20. Donc c'est pour ça que je défends l'idée de mondialisation contre, d'une part, les globalistes et d'autre part, les identitaristes.
Je voudrais vous faire écouter une philosophe, Barbara Stiegler, qui est très engagée, plutôt à gauche, comme vous le savez. Elle va nous parler du mouvement des Gilets jaunes, parce qu'on se demande comment va être notre rentrée sociale et qu'on aimerait bien avoir votre avis. On écoute Barbara Stiegler, c'était le 14 décembre 2020 dans l'Heure Bleue.
Je le savais déjà, mais ça fait toujours drôle, puis ça fait toujours mal de voir à quel point nous sommes pétris de préjugés... sociaux extrêmement méprisants. Voilà, il y a des gens qu'on ne fréquente pas. Il y a des gens, alors quand je dis « on », c'est ce milieu intellectuel, malheureusement, qui est souvent dans ces espèces de réflexes non réfléchis. Dans notre milieu, c'est vrai, on a vite fait de mettre à part, de stigmatiser les mêmes qui souvent ont un discours très, très sympathique contre le racisme. Contre le mépris de classe, contre le mépris de genre, contre toutes les formes de mépris, en réalité, le pratique. Et je ferai mon autocritique, je suis moi-même pétrie de clichés, de toutes ces choses. Il faut en avoir conscience, il faut être beaucoup plus réflexif qu'on ne l'est, en réalité. Alors, moi, quand j'ai vu les Gilets jaunes, j'ai bien sûr vu qu'il y avait probablement des gens absolument infréquentables, qui étaient racistes, qui étaient homophobes. Certainement, ils avaient peut-être pas les têtes qui me revenaient. Mais ce qui est assez terrifiant, c'est de partir de ces impressions vagues, en partie peut-être justifiées pour tel ou tel individu, et de s'en servir comme catégorie pour analyser un mouvement politique qui probablement a une très grande portée historique.
Nous venons d'entendre Barbara Stiegler, universitaire, qui prend parti... En ce moment même, en tant que citoyenne philosophe sur le devenir du monde, j'ai l'impression que sa position rejoint aussi peut-être la vôtre, Alain Supiot, sur ce qui ne va pas à l'intérieur de notre société, sur la gouvernance d'Emmanuel Macron. Vous avez publié le 28 janvier dernier dans le journal Le Monde une tribune qui était titrée ainsi « Emmanuel Macron n'est que le dernier avatar de la politique de dépérissement de l'État social ». Et vous dites de lui qu'il dirige la nation comme une start-up, ce qui d'ailleurs n'empêche pas l'aggravation du déficit commercial. Comment faire en début de second mandat d'Emmanuel Macron pour que la solidarité dans le monde du travail et la possibilité pour chacun d'entre nous d'exprimer son rapport au monde et d'être protégé par l'État puisse perdurer ?
Il faudrait espérer que, riche de l'expérience du premier quinquennat, de revenant sur certains discours prononcés par le président de la République au début de la crise du Covid, où ces discours magnifiaient justement le fait que l'État était ce qu'il est, d'ailleurs, le garant en dernière instance de la vie humaine sur un territoire déterminé, eh bien que fort de tout cela, notre président, qui est notre président légitimement élu, fasse retour sur lui-même. Et c'est particulièrement important dans le cas français, puisque je n'ai rien à dire sur l'homme Emmanuel Macron, je ne le connais pas, ça m'évoque simplement que François Hollande avait dit « Macron, c'est moi ». Donc c'est histoire de dire qu'il s'inscrit dans une filiation. Mais s'il y a un problème spécifique à la France...
Avec quelque chose d'inéluctable dans sa propre politique.
Non, c'est pour ça.
Quel est l'espace ?
D'abord, une règle première pour les juristes, c'est de présumer la bonne foi. Je présume toujours la bonne foi des politiques, a priori. Mais ça n'interdit pas d'essayer d'avoir une approche un peu objective. Et donc, ce dont il est le représentant en France, c'est un mouvement qui, à l'évidence, on a vu se développer ailleurs. Tony Blair, déjà, au début des années 2000. Les Français sont souvent en retard sur l'Angleterre, de ce point de vue. Là où il y a un problème spécifique institutionnel à la France... C'est la nature de nos institutions. Et là aussi, quand nous parlions à l'instant de la diversité constitutive, même de l'Europe, sans parler du monde entier, elle était déjà perçue, puisque lorsque j'ai réédité l'édition du tricentenaire des lettres persanes, en reprenant ce texte, on trouve sous la plume de Montesquieu des descriptions des différents États européens qui sont fascinantes. Si vous me permettez, juste une seconde. L'Allemagne, la seule puissance qui soit sur la terre que la division n'a point affaiblie, la seule qui se fortifie à mesure de ses pertes et qui lente à profiter des succès, devient indomptable par ses défaites. 1721. L'Angleterre, une nation où l'on voit la liberté sortir sans cesse des feux de la discorde et un prince toujours chancelant sur un trône inébranlable, et enfin la France, un pays où le prince, rapportant tout uniquement à lui, appelle l'État à sa capitale, la capitale à sa cour, et la cour à sa seule personne. Vous avouerez que c'est assez bien vu. Et là où ça cause un problème spécifique aujourd'hui, c'est que, vous voyez, M. Johnson, il se confronte chaque semaine à son opposition dans les communes, il doit répondre. Nous sommes dans un système où le président, une fois élu, n'a plus
de compte
aucun
à rendre.
Contradicteur. C'est pas de compte à rendre, c'est de contradicteur. Il n'a plus à avoir une opinion contraire à la sienne en
Sauf
face de lui.
Sauf s'il y a une opposition qui se constitue après les élections législatives. Là, à ce moment-là, on pourra dire que les deux chambres, il y aura possibilité
si vous voulez, dans
de contradiction.
Si on peut dire un mot sur les constitutions de la Ve République, De Gaulle était un personnage souverain qui savait ce que c'était que la souveraineté. Il savait que la souveraineté, c'est une auto-limitation. Et qu'en tant que président, il n'était pas Premier ministre. Bon, ça, c'est quelque chose qui a disparu. Et ce n'est pas avec le quinquennat qui vient de se terminer. C'était déjà dans certains présidents antérieurs. Donc, à ce moment-là, nous avons un problème parce que nous n'avons plus ce jeu minimal de contradiction qui doit éclairer la décision publique.
Merci Alain Supiot. C'est fini. On aurait déjà eu beaucoup d'autres questions à vous poser, mais c'est fini. En tout cas, je conseille vivement de lire en ce moment « La justice au travail ». C'est votre dernier ouvrage qui vient de paraître au Seuil dans la collection Libelle. Merci infiniment.
Merci à vous.
C'est nous qui faisons notre là, c'est nous dormir à tes bagages, si la pas capable de tirer. Travailler, dis au monde. Grand mais y pas nous, c'est coup de bâtonnier. Mes autres chita se donnent, y'a tout dîner. D'au dîner, mon copain, ou à d'au dîner. La râle et chaise là, ou à vacasser rien. D'au dîner, mon copain, ou à d'au dîner. La râle et chaise là, ou à vacasser rien. Si la leur police is fun, voler leur pays. Nos papis timi qui sont gadoyés. Mais c'est sous ton yoshita, y'a ton dîner. Ton dîner, mon copain, ou à ton dîner. La râle et chaise là, ou à vacasser rien. Ton dîner, mon copain, ou à ton dîner. La râle et chaise là, ou à vacasser rien.
C'est avec Leïla Makkala que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Laurent Bedouin qui est à la régie technique ce soir. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Marie-Clément, Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux. Et bien sûr Lilian Alaume qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Dans 5 minutes, vous retrouverez les émissions de la campagne officielle pour les élections législatives. Et tout de suite après, bien sûr, vous avez rendez-vous avec Mishka Assayas pour son Very Good Trip.